franceinter.fr. Le 7-9 sur France Inter.
Votre invité Léa Salamé est journaliste, il a enquêté sur l'affaire Arafat.
Bonjour Emmanuel Faux.
Bonjour Léa Salamé.
D'abord une question d'actualité, regain de tension, escalade de la violence, troisième intifada sont des expressions éculées, pour pas dire banales, en tout cas trop utilisées quand il s'agit du Proche-Orient. Mais est-ce que cette fois, avec les deux Israéliens assassinés hier à coups de couteau, avec la colère autour de l'esplanade des mosquées, est-ce que c'est plus grave que d'habitude?
Oui. Oui, parce qu'il n'y a plus d'espoir. Oui, parce qu'il n'y a plus de perspective politique. Il n'y a plus de processus de paix sur la table. Oui, parce que ce déplacement des attaques des territoires palestiniens vers les villes israéliennes, comme Jérusalem et Tel Aviv, traduit l'énergie du désespoir. Et puis aussi, oui, parce que jamais le fossé n'a été si grand entre la toute-puissance du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou, qui s'appuie sur un consensus israélien très large pour ne plus aller aux négociations, pour ne plus voir l'autre, pour ne plus parler avec l'interlocuteur qui est derrière le mur de séparation, et une autorité palestinienne réduite à sa plus simple expression, et dont le président Mahmoud Abbas est un homme aujourd'hui très faible et fait figure un peu de dernier des Mohicans qui croient encore à une paix possible dans la région.
Et oui aussi, peut-être, parce qu'il ne reste plus rien ou presque de l'héritage d'Arafat, puisqu'on va en parler dans un instant avec votre livre. Oslo, la poignée de main historique, c'était il y a plus de 20 ans.
Ouais.
Oslo est morte aujourd'hui.
Oslo a commencé à mourir le soir de l'assassinat d'Itzhak Rabin en novembre 1995. Il y a donc déjà près de 20 ans. On avait prédit dès ce moment-là que la paix était en danger. Et malheureusement, il n'y a plus de nouveau Rabin et de nouveau Arafat depuis 10 ans dans la région pour raviver cette flamme du processus de paix.
C'était le 11 novembre 2004, il y a donc 10 ans jour pour jour, à l'hôpital Percy de Clamart. Il avait 75 ans. Yasser Arafat mourait. Sa mort est toujours inexpliquée aujourd'hui, entourée de flou, de rumeurs, de spéculations. Avez-vous réussi, Emmanuel Faux, à l'issue de votre enquête, à percer le mystère? Yasser Arafat a-t-il été assassiné?
J'ai percé en tout cas un mystère et j'ai pu recueillir les éléments qui contredisent la thèse officielle encore affirmée aujourd'hui, notamment par les experts français, et que les juges sans doute de Nanterre vont confirmer début 2015, à savoir que le président Arafat serait mort de sa belle mort, d'une mort naturelle, de sa vieillesse, un homme cabossé par les épreuves de la vie. C'est vrai que sa santé était fragile, c'est vrai qu'il était confiné dans le siège de la Moukata depuis 2 ans et demi, mais tous les éléments du tableau clinique que je publie dans le livre et que j'ai fait relire par 4 grands médecins, dont des médecins aujourd'hui qui sont très reconnus à l'hôpital Salpêtrière, à l'hôpital Bichat, et également l'ancien médecin personnel d'Arafat, aujourd'hui décédé, le docteur Al-Kourdi, nous disent que ce tableau clinique n'est pas le tableau d'un homme qui est mort de sa belle mort.
Les 4 médecins disent qu'il n'est pas mort naturellement. Les
Absolument.
4 médecins qui ont eu accès au dossier médical d'Arafat.
Il y en a eu plus, mais ceux que j'ai interrogés, et que je fais relire ce dossier médical, disent qu'on ne peut pas affirmer de façon péremptoire, en excluant toute autre hypothèse, que la mort de Yasser Arafat est une mort naturelle.
Alors avant de vous demander qui peut être derrière cet assassinat, puisque vous privilégiez plutôt la thèse de l'assassinat, vous dites que la France n'a pas dit la vérité sur la mort d'Arafat. Sur quoi vous vous basez pour dire ça ?
Il y a d'abord eu le silence très étonnant des autorités françaises dès la mort d'Arafat. C'est-à-dire que vous vous en souvenez sans doute, au moment où le Raïs décède, le rapport d'hospitalisation et les conclusions des médecins quelques jours plus tard reconnaît qu'il est impossible de conclure sur les raisons véritables de cette mort.
Voilà,
et on en reste à ce flou.
On dit inexpliqué.
Inexpliqué.
Pourquoi il n'y a pas eu d'autopsie?
Il n'y a pas eu d'autopsie parce que la famille ne l'a pas demandé, c'était à elle de le faire. La veuve Souha Arafat n'a pas réclamé cette autopsie et les autorités françaises n'ont pas poussé à la roue. À partir de là, on tombe dans un silence incroyable de plus de 7 ans où le dossier Arafat est d'une certaine manière enterré, plus personne n'en parle. Et il faut que ce soit l'éveil d'un journaliste américain de la chaîne Al Jazeera, Clayton Switcher, qui aille trouver la veuve Arafat fin 2011 et qui lui dise « Madame, vous devriez faire expertise les vêtements, les effets que le président Arafat avait avec lui dans les derniers jours de sa vie. Une expertise qui va donner, on le sait, lieu à des observations de polonium-210, cette matière hautement radioactive, très présente dans les vêtements. Et à partir de là, la veuve Arafat, à l'été 2012, vous vous rendez compte, il y a un peu plus de 2 ans, 8 ans après la mort de son mari, va se décider à déposer plainte contre X pour empoisonnement, ce qui va déclencher le processus menant à l'exhumation du corps d'Arafat il y a seulement 2 ans.
Soit Arafat, la veuve, donc, qui pendant 7 ans ne va pas se préoccuper de faire analyser les vêtements de son mari, soit épouse non grata, vous intitulez votre chapitre ainsi. Pourquoi elle a mis sous le tapis tapis les choses.
Notamment parce qu'elle a été une épouse fantomatique, je dirais, un peu du président Arafat. Elle a très peu vécu à ses côtés. Elle l'a rencontré, si je puis dire, dans un exercice professionnel d'accompagnement politique, d'abord, de son activité de président de l'autorité palestinienne quand il était en exil en Tunisie. Mais elle a très peu vécu dans les territoires palestiniens. Elle est très vite rentrée en France. Elle vivait entre Paris et Tunis. Et donc, si vous voulez, la veuve Arafat n'était pas vraiment connue et reconnue par la population palestinienne. Mmh. Et c'est en cela qu'elle était un petit peu l'ombre de son mari.
Alors évidemment, si vous privilégiez la thèse de l'assassinat, on est obligé de vous demander ce matin, Emmanuel Faux, qui derrière l'assassinat ou le meurtre d'Arafat, qui avait intérêt à ce moment-là, il y a 10 ans, à tuer Arafat?
Voilà, vous faites bien de poser la question comme ça, parce que c'est comme ça que je formule les choses dans le livre. À l'automne 2004, au moment où le Raïs meurt, qui a le plus intérêt à sa disparition? Je crois que c'est comme ça qu'il faut poser la question, parce que nous sommes 10 ans après sa mort et nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure d'établir exactement l'origine et le tueur effectivement d'Arafat. Mais dans le contexte...
Vous privilégiez une thèse.
Je privilégie une thèse qui est que les ennemis les plus farouches à l'époque où Arafat meurt, sont plutôt à l'intérieur de l'autorité palestinienne qu'en Israël. Évidemment, le suspect numéro un automatique, c'est l'État hébreu.
Qui avait déjà fait des empoisonnements avec Khaled Meshal,
qui avait tenté de le faire notamment avec Khaled Meshal, vous avez raison, en Jordanie. Mais à l'époque, à cette époque-là, si vous voulez, Arafat n'est plus politiquement aussi nuisible qu'il n'a été avant. Et pour l'État hébreu, il y a moins d'enjeux à éliminer Arafat physiquement. Donc, la thèse qui est intéressante, c'est celle que Mahmoud Abbas, le président palestinien lui-même, va mettre publiquement sur la table il y a quelques mois en accusant Mohamed Dahlan, l'homme de la sécurité à Gaza, voilà, nommé et fabriqué, promu par Arafat, et qui va progressivement se retourner contre le chef et ourdir un complot contre lui, qui échoue quelques mois avant la mort d'Arafat.
Si vous voulez en savoir plus sur l'empoisonnement présumé de Yasser Arafat, ça s'appelle « L'affaire Arafat », c'est allé aux éditions de l'Archipel, « L'étrange mort du leader palestinien ». Emmanuel Faux était notre invité. Merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.